Jeff Woodkey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libre depuis un peu plus de 2 mois, après 6 années et demie de captivité. Alors d'abord, comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Bon, je me sens bien. On prend de chaque jour, petit à petit, on marche en avant. Je suis en train de me soigner physiquement et mentalement. Je suis avec ma famille et mes amis et mon église. J'étais accueilli chaleureusement avec tout le monde ici chez moi. Et voilà, ça marche petit à petit.
Quelques jours après votre libération, vous avez donné une brève conférence de presse aux États-Unis, mais c'est la première fois aujourd'hui que vous acceptez de répondre à une interview. Grand merci pour cela, Jeff Woodkey, mais pourquoi RFI? Pourquoi pas aux États-Unis?
Bon, David, pourquoi RFI? Parce que pendant que j'étais otage, finalement, après 5 ans et quelques mois, ils m'ont donné un poste radio. Avant ça, je n'ai pas de communication du tout avec le monde extérieur. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand j'ai eu cette poste radio, j'ai écouté religieusement RFI chaque matin et j'ai trouvé des renseignements du monde entier. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié RFI. C'est RFI qui me donnait un peu l'espoir de vivre encore avec maman, bien sûr, chaque matin et Charlotte de vendredi. Donc, j'étais très reconnaissante et j'écoute RFI chaque matin jusqu'à aujourd'hui.
Jeff Woodkey, merci encore pour ces mots. Le Niger a obtenu votre libération auprès du JNIM lié à Al-Qaïda, mais votre enlèvement n'avait étrangement jamais été revendiqué par Al-Qaïda. Et les renseignements nigériens soupçonnaient initialement le Mujao, dont les combattants sont largement passés depuis sous la bannière de l'État islamique. Est-ce que vous avez des précisions sur l'identité de vos ravisseurs? Est-ce que vous savez si vous avez changé de main, changé de groupe?
Oui, bien sûr. Je n'étais pas enlevé par Mujao proprement dit. J'étais enlevé par Al-Muribitoun. Le groupe Al-Muribitoun, ils étaient Mujao avant. Ils sont devenus Al-Muribitoun. Ils étaient liés avec Al-Qaïda à ce moment. Après 4 mois avec eux, j'étais transféré à Al-Qaïda même. J'ai passé 1 an et demi avec eux. Puis j'étais transféré aux montagnes. J'étais avec Ansar Dine sur la coupe de Jenim. J'ai passé le reste de mon temps avec eux.
Vous avez déclaré avoir été traité pendant votre captivité de manière brutale et inhumaine. Alors, sans rentrer dans des détails peut-être douloureux et pas forcément nécessaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez enduré?
Les premiers quelques mois, c'était un traitement pas très brutal, mais petit à petit, ça a changé. Ils ont commencé de me battre, me frapper. La nuit de mon enlèvement, j'étais frappé bien et jusqu'au présent, j'ai des problèmes de pieds. Mes pieds sont un peu abîmés à cause de ça. Je suis en physiothérapie, on dit en anglais, pour réapprendre comment marcher. Donc, j'étais frappé par les fusils, par les mains, par les bâtons. Et puis, ils ont commencé de mettre les chaînes sur mes chevilles la nuit et les menottes jusqu'à 16 heures par jour. J'ai passé 2 mois dans une petite paillote de même pas 3 mètres carrés. Même pas. Je ne peux pas me rallonger. Je ne peux pas me mettre debout. Toute la journée, je ne peux pas sortir sauf pour aller uriner ou bien me laver un peu le soir. Et puis la nuit, ils viennent avec les menottes. Donc c'était ça. Pour 2 mois, imagine, je ne peux pas marcher. Et pendant tout le temps, j'étais dans les menottes. Jusqu'aux derniers 6 mois, il faut que je dise que je crois qu'ils ont compris que leur comportement comme ça ne marche pas. J'ai commencé les grèves de faim, j'ai fait quelques-uns. Ils ont enlevé les chaînes pour les 5 mois avant que j'étais libéré. Et ils ont commencé d'essayer d'aller plus gentiment, doucement avec moi.
Olivier Dubois, libéré en même temps que vous, n'a jamais subi de tels sévices, il l'a expliqué lui-même. Alors comment expliquez-vous cette différence?
Bon, Janine, ils ont pensé que j'étais une agent du gouvernement américain, soit avec le DOD, Département de Défense, ou bien le CIA. J'étais accusé de ça jusque le soir avant mon libération, j'étais avec le numéro 2 de Janine.
Seydan Agita, pour le nommer.
Oui, lui-même en personne. Il m'a dit que vous êtes militaire. C'est pas vrai. On a eu un financement avec eux. Ça fait peut-être 15 ans. Et aussi, je suis chrétienne et je n'ai pas voulu accepter de devenir musulman. Ils m'ont dit, si tu deviens musulman, on va enlever les chaînes, on va enlever les menottes, on va vous traiter avec l'humanité, avec le respect. Mais j'ai refusé ça et voilà.
Vous venez de parler de votre foi chrétienne, c'est cela qui vous a aidé à tenir pendant toutes ces années?
Oui, bon, c'est ma foi, bien sûr. J'ai prié 8 heures chaque jour pour les premières quelques années. Mais il faut que je dise la vérité. Après quelques années, bien sûr, ma foi était en train de chuter. Je n'ai pas vu la réponse à mes prières. Et J'avais le problème de post-traumatic stress qui ont déjà commencé à ce temps.
De stress post-traumatique.
Oui, c'est ça. C'est difficile en français. J'ai eu ça et c'était toujours ma foi, mais aussi ma famille et mes pensées à eux. Et voilà, je ne peux pas vous dire exactement comment je peux tenir, sauf que c'est la foi et l'amour pour ma famille et le désir de les pardonner. Parce que je n'ai pas voulu devenir une personne de la haine. Il faut pardonner, il faut laisser la haine derrière. Donc ce sont ces trois choses qui m'ont soutenu pendant mon captivité.
Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner quelques précisions sur la manière dont le Niger a obtenu votre libération, la vôtre et celle d'Olivier Dubois?
Cette question, c'est un peu difficile parce que c'est délicat, bien sûr. Je ne peux pas vous parler en détail. C'était une collaboration entre plusieurs acteurs. Vive le Niger, ils ont bien fait pour me livrer, mais il y a les autres acteurs aussi. Je ne peux pas les mentionner.
D'autres pays?
L'autre pays, bien sûr, et les individus.
Oserais-je une question sur les éventuelles contreparties?
Non, non, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. J'ai les idées, je crois qu'ils sont valables, mais je ne peux pas vous partager ici sur les antennes pour le moment.
Vous n'étiez pas détenu avec Olivier Dubois, que vous avez retrouvé à l'occasion de votre libération, mais durant votre captivité, vous est-il arrivé de côtoyer d'autres otages?
Une seule fois, j'étais avec Ulian Gergut, le Romain. Je n'ai pas pu parler avec lui directement. On était ensemble pendant 14 jours environ, mais on était séparés. On a communiqué avec les signes, avec les mains. Et je lui ai fait un promet que je vais travailler pour lui quand je serai libre. Et je tiens à cette promesse et je voudrais lui annoncer un message. Julien, si vous écoutez cette émission, il faut savoir que vous n'êtes pas abandonné, que vous êtes aimé par votre famille et vos proches et par moi aussi. Et on travaille pour vous. Soyez courageux, mon ami.
Et aujourd'hui, c'est une résolution que vous avez prise, vous mobiliser pour la libération des autres otages, toujours détenus.
Oui, bien sûr. J'ai parlé même avec Anthony Blinken de ça.
Le secrétaire d'État, le chef de la diplomatie américaine.
Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas dormir, je ne vais pas s'asseoir jusqu'à tous les autres qui sont avec Jenim sont libérés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup des otages et gens qui sont détenus illégalement dans le monde entier. Et il faut qu'on travaille pour eux parce qu'ils sont oubliés.
Et cela concerne également, bien sûr, les otages locaux, maliens.
Bien sûr. Et ils sont là-bas, ils sont détenus. Pardon, j'étais dans le même campement avec un otage malien pour 4 à 6 mois, je pense. Je n'ai jamais pu parler avec lui, mais je les adresse aussi à moi. Prends courage, vous n'êtes pas oubliés. Avoir l'espoir. Si Dieu veut, vous serez libérés aussi comme moi.
Avant d'être enlevé, vous avez passé plus de 20 ans au Niger. Aujourd'hui, la situation dans la région a bien évolué avec des coups d'État militaires au Mali et au Burkina, ou encore avec la percée du groupe État islamique au Mali, au Burkina et au Niger. Vous avez suivi ces évolutions pendant votre captivité?
Une fois que j'ai eu le poste radio, j'ai écouté ça chaque fois avec RFI. J'ai entendu tous les changements, tout le bouleversement. J'étais un peu choqué d'abord, mais pas très surpris quand même. J'ai vu les tendances même avant que j'étais enlevé. Et moi, j'ai dit, qui sème le vent va récolter les cyclones. Cependant, je pense et j'espère que la paix n'est pas impossible à retrouver. Avec le dialogue, avec l'amour, je crois qu'on peut voir une meilleure situation au nord du Mali, au Burkina et au Niger.
Le Niger, est-ce que vous envisagez d'y retourner bientôt?
Ah, je voudrais bien, mais je salue tous mes amis à Abalak et au Niger. Bon, je considère le Niger comme mon deuxième pays. Ils ont travaillé beaucoup pour mon libération. Oui, je voudrais retourner. Bientôt, je ne sais pas.
Jeff Woodkey, merci encore et bon retour parmi les vôtres.